Rebonjour, bienvenue, c'est la dernière ligne droite Média Foot, bien entendu. Il y aura une autre émission lundi prochain pour parler de la finale et du vainqueur de cet Euro 2016. Vous le savez, c'est Julie Rosselin, les gros yeux. Bonjour Julie.
Bonjour Hakim, bonjour à tous.
En forme.
Ouais, ça va. Mais une émission juste lundi.
Ah oui, ouais, c'est, normalement ça se termine. L'Euro se termine le dimanche, donc on aura l'occasion de parler du vainqueur, peut-être l'équipe
bien
de
sûr.
France, peut-être le pays de Galles, l'Allemagne.
Voilà.
On ne sait jamais, le Portugal,
sûr,
Cristiano
jamais.
Ronaldo, Ilham à la réalisation. Bonjour Ilham. Et bien entendu, c'est l'Euro, la première, on va dire les demi-finales sont connues. Ça sera mercredi. Et mercredi, on aura droit à un match entre le Pays de Galles et le Portugal. Et l'autre demi-finale, jeudi, Allemagne-France, des retrouvailles, puisque les deux formations, les deux sélections s'étaient affrontées. Eh bien, lors du dernier mondial au Brésil, et l'Allemagne l'avait emporté avec un but de Hummels qui sera absent pour cumul d'avertissement, et celui qui était chargé de marquer Hummels n'est pas là non plus. Il s'agit de Raphaël Varane, vous le savez, absent pour blessure. Comment vous avez trouvé la qualification de l'équipe de France, Julie, hier face à l'Islande, 5-2. Griezmann, meilleur buteur. Tous les joueurs qui ont été critiqués depuis le début du tournoi,
Olivier Giroud,
Pogba, Griezmann aussi.
Moi, je suis très contente de cette qualification. Vraiment, je m'en réjouis. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu un moment comme ça. J'ai trouvé l'équipe vraiment agréable à voir jouer. J'ai... Vous me prenez un peu au saut du lit là.
Non, je voulais juste dire.
Vraiment, je suis contente effectivement de ces points-là. Après, il faut se rendre compte que c'est, on le dit à chaque fois, mais en fait, c'est le match prochain, la compétition vraiment qui débute. Et il reste encore des errements, il reste encore des erreurs qui, moi, me font un peu peur pour jeudi prochain.
C'est peut-être le charme d'ailleurs de cette équipe de France. En tout cas, on a l'impression qu'on parle de plus en plus. Il y a un certain enthousiasme à travers la France pour cet Euro et surtout pour cette équipe. On va voir tout cela avec nos experts tout à l'heure dans la deuxième partie. Ce sera David Lortolari et aussi Aurélien Devernois. La première, Hervé Penaud et Frédéric Hermel. Hervé, bonjour.
Bravo, vous avez en puissance un vainqueur de l'Euro avec vous, mais c'est énorme, 5-2, on écrase tout le monde. Ah, je ne sais plus où sont les Espagnols, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, ça arrive.
Frédéric Hermel est également avec nous, bonjour Fred.
Attention à la réponse.
Je retourne ma veste, toujours du bon côté, allez les Bleus.
Non mais sérieux.
J'ai changé, j'y croyais pas, là j'y crois après le match d'hier soir. Désolé, on est obligé d'y croire. Je suis comme Julie, j'ai été séduit, enthousiasmé. On a vu des phases de jeu magnifiques. On a vu un potentiel vainqueur de l'Euro. Sincèrement, j'y crois depuis hier soir. Mais bon, je monte dans le bus à la dernière minute, mais au moins j'y monte. Hein.
Hervé, qu'est-ce qu'il a vu ?
Eh ben, j'étais quand même agréablement surpris. Mais surtout, c'est qu'on se retrouve finalement avec l'équipe qu'on imaginait au départ. Moi, depuis le début des émissions, je n'arrête pas de dire, mais pourquoi on ne fait pas confiance à Griezmann, qui pour moi est le leader de cette équipe. On n'en parle même pas. Il faut le mettre dans toutes les conditions. Alors maintenant, on vient m'expliquer, c'est peut-être parce qu'il l'a reposé qu'il est bon. Il est bon, c'est tout. Il était très bon. Il aurait été là avant, ça aurait été encore meilleur. Parce qu'il faut quand même pas oublier, si on regarde l'histoire de cet Euro pour l'instant de la France, c'est le match contre la Suisse et le pénalty non sifflé à la dernière minute qui aurait changé radicalement toutes les choses. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. J'ai l'impression que tout va dans le sens des Français. Enfin, on est avec Didier Deschamps, donc on le connaît. Hein. C'est qu'en général, quand Didier Deschamps a quelque chose, il touche quelque chose, ça se transforme en or. Vous y pouvez rien.
On va toucher le bois.
Oui, mais à un moment, tout le monde se disait « Ah, mais ce serait pas mal de prendre l'Italie, ils ont 10 suspendus, 10 possibles suspendus, ou 9, et avec un coup de bol, il va y avoir 6 cartons jaunes. » Il n'y a eu aucun carton pour les Italiens, finalement, c'est les Allemands qui ont fait le travail. Hop, on vire Gomez, on vire Dumels, on vire Khedira, on vire Schweinsteiger. Donc à un moment, vous dites « C'est pas possible, il se passe quelque chose avec cette équipe. » Mais surtout, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a trouvé son équipe. Voilà, maintenant, il sait vraiment où il veut aller après avoir longtemps tâtonné. Et la chance qu'on a eue, il faut surtout pas l'oublier, c'est d'avoir été confronté à des adversaires d'un très faible niveau. C'est-à-dire que vous arrivez quand même en demi-finale de l'Euro sans avoir rencontré une véritable équipe.
Ben voilà, c'est
Hervé,
l'Euro.
Hervé, tu parlais justement, si je puis me permettre, de la chance du champion. On va parler aussi de la chance du champion ou de la malchance du champion. Regarde, la France, ce pénalty non sifflé en faveur de la Suisse, c'est la chance du champion. Le but de la Croatie à la dernière minute contre l'Espagne, qui fait que l'Espagne se retrouve face à l'Italie, est éliminée. C'est la malchance du champion. Ça se joue parfois à pas grand-chose. Et je suis d'accord avec Hervé que le côté chance, le côté baraka, eh ben ça compte dans une grande compétition.
Bah, on va revenir sur l'équipe de France. On en a déjà parlé hier soir, ce matin, mais l'info, puisque tout à l'heure Hervé se demandait l'Espagne, où elle est l'Espagne. Bah, l'Espagne, on a appris ce matin qu'il y avait Casillas et Del Bosque qui avaient, enterré l'âge de guerre, puisqu'ils ont fait. C'était la une des journaux. Mais dans la foulée, c'est surtout Del Bosque qui s'en va, et c'est officiel depuis quelques minutes, Fred.
Exactement, et comme toujours, l'après-match est au cœur de l'information, et là pour annoncer les belles choses, ou les tristes choses, enfin en tout cas, Del Bosque s'en va, il ne va même pas accepter a priori de poste de représentation au sein de la Fédération espagnole, il prend sa retraite, en tout cas sa retraite de la Fédération de la Sélection espagnole. Merci à ce grand entraîneur, faut pas l'oublier, il a gagné 1 €, il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, donc c'est quelqu'un qui a été joueur du Real, entraîneur du Real, directeur du centre de formation du Real, sélectionneur de la sélection espagnole. Je peux vous assurer que c'est un magnifique palmarès qu'a présenté ce type qui est au demeurant, et j'ai la chance de le connaître depuis 1993, un vrai bon monsieur, et je suis ravi qu'il parte avec autant de titres, même si les deux dernières compétitions, le Mondial et l'Euro, n'ont pas été à la hauteur des espérances. Il reste dans l'histoire et son nom gravé dans l'histoire du football espagnol et du football mondial.
Justement, ce technicien qui est déjà ancien joueur du Real Madrid, contrairement aux entraîneurs et aux sélectionneurs qu'on voit souvent se manifester, gesticuler au bord du terrain, c'est quelqu'un de calme. Et même dans les crises, dans les lourdes défaites, dans les échecs, il a toujours été, correct. Il a su rester, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, que ce soit la victoire ou bien la défaite, il est resté fidèle à lui-même, l'image qu'il dégage, quelqu'un de sûr de lui et calme tout le temps.
C'est quelqu'un de tranquille et c'est surtout quelqu'un qui a le poids de l'expérience. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il vient de Salamanque et quand il a joué au Real, c'était encore le grand Santiago Bernabéu, le président. Et le président avait dit, il faudra dire au petit gars de Salamanque qu'au Real Madrid, on se coupe les cheveux parce qu'il avait une longue crinière. Voilà. C'est quelqu'un qui a connu le football d'une autre époque. C'est quelqu'un qui a fréquenté des joueurs exceptionnels. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Alfredo Di Stefano. Vous imaginez d'où il vient?
Les Kempes.
C'est quelqu'un. Ouais, voilà, les Kempes, tout ça. Enfin, il a connu tout le monde dans le foot.
Julie ne connaît pas Kempes.
Mario Kempes. Je connais la fille de Mario Kempes qui s'appelle Magali, qui parle très bien le français d'ailleurs, très gentille.
C'est bien.
Très bien français, Magali. Et donc, le Del Bosque, c'est quelqu'un qui a connu l'évolution du football depuis 30, 40 ans. Enfin, c'est délire, quoi. Et c'est quelqu'un qui a justement, parce qu'il a connu tellement de situations différentes dans le football, les joies, les tristesses, les doutes du football, c'est quelqu'un qui a appris à relativiser tout ça. Et en plus, ce n'est pas entrer dans la vie privée de Del Bosque que de raconter ça, parce que il l'a lui aussi souvent raconté. C'est quelqu'un qui a un enfant qui a le syndrome de Down, et on se souvient, on avait été tous très émus quand ce gamin avait accompagné son papa Del Bosque lors de la victoire en Coupe du Monde dans le tour en bus qui avait été fait dans les villes de Madrid, et son fils Alvaro était devenu un peu un symbole de ce qu'est Del Bosque, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime le foot, mais qui a su relativiser beaucoup les choses avec ce qu'il a vécu, le fait d'avoir un enfant qui a cette cette différence génétique, on va dire. Donc voilà, c'est un monsieur qui, pour lequel j'ai vraiment beaucoup beaucoup de respect et beaucoup d'amitié, et je l'aime beaucoup, et je suis vraiment je suis un peu ému quand je parle de lui, parce que c'est là aussi une page du foot espagnol qui se tourne, et une page, j'insiste, du football mondial.
Hervé Penaud est polyvalent, on le sait, il aura sûrement un petit mot à propos du départ de Vicente Del Bosque, et mon impression personnelle, peut-être il aurait dû partir après le mondial brésilien et l'élimination dès le premier tour, Hervé.
Oui, mais il a voulu aller au bout de l'histoire avec son équipe. C'est assez logique. Hein. C'est souvent le cas des entraîneurs. Même quand il vous semble être un homme qui n'est pas obsédé par son ambition, hein, c'est l'image qu'il renvoie. Mais il n'empêche que quand vous êtes à ce niveau-là, vous voulez gagner. Hein. C'est le moteur un peu de sa carrière. Moi, l'image que j'ai de Del Bosque, c'est l'entraîneur aussi du Real. C'est celui qui a réussi à un moment à faire jouer ensemble des joueurs de très haut niveau et surtout en sachant rester à sa place. Et je crois que c'est sa force. Il a toujours su rester à sa place. C'est peut-être pas le plus grand tacticien de l'histoire du football. Mais c'est un entraîneur, un sélectionneur qui savait s'adapter à l'effectif qu'il avait. Et ce n'était pas évident, hein. On l'a vu avec Benitez, les difficultés qu'il a pu avoir au Real. Et à l'époque aussi, c'était un Real peut-être encore plus impressionnant. Hein. Et lui, il a réussi comme ça à trouver le lien entre les joueurs par son intelligence, sa finesse d'esprit, son comportement. Et tout ça, c'est l'image qui reste aujourd'hui de Del Bosque. C'est un entraîneur qui a gagné. Donc il ne faut certainement pas l'oublier, mais ce n'est pas simplement le bon petit nounours, le grand-père sur le banc de touche, c'est aussi quelqu'un qui connaissait parfaitement le football et les liens sociaux dans l'entreprise football.
Et on l'a vu d'ailleurs ces dernières années lorsque les relations entre certains joueurs du Real et du Barça qui appartenaient à cette sélection, on a vu comment il a réussi, bien entendu, à maintenir cette sélection espagnole compétitive. Voilà, c'était pour rien à dire à propos de Del Bosque et Julie. Donc on va reparler de l'équipe de France. On a fermé cette parenthèse.
Je vais me réveiller là dans les
l'information
deux
vient de tomber donc. Del Bosque qui quitte la sélection espagnole. On en a parlé et on parlait de Caparrós qui pourrait lui succéder. Oui. En tout cas, on devrait avoir d'autres informations. Fred, on connaît l'identité, pas encore?
C'est officiel?
Non, c'est pas encore. Non, pas encore. On le saura a priori avant le 15 juillet, puisqu'il y a l'assemblée générale de la fédération. On connaîtra le successeur, mais a priori celui qui tient la corde, c'est Caparrós, un entraîneur de 60 ans, un vieux routier de la Liga qui est un peu dans le style Del Bosque, peut-être un peu plus actif sur le banc, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui saura aussi ménager la chèvre le chou. C'est très important quand on est avec des joueurs aussi connus, aussi célèbres, et parfois aussi égocentriques, mais même s'ils sont en général, ils sont plutôt sympas, les footballeurs espagnols.
Et on s'en réjouit de cette arrivée possible en Espagne? Qu'est-ce qu'on en dit?
Oui, c'est un candidat du consensus. Okay. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui est très aimé, c'est quelqu'un qui a toujours eu, en plus, un rapport. Il a beaucoup parlé dans les médias parce qu'il estime qu'il faut expliquer les choses et que s'enfermer dans une tour d'ivoire, c'est mauvais. C'est d'ailleurs ce qui tue le football actuel, hein, ce côté où on ne parle plus que quand il y a 50 sponsors derrière. Voilà, c'est quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un qui a entraîné beaucoup de générations de footballeurs en Espagne. Donc voilà, on est dans la continuité. C'est un bon entraîneur. C'est pas un révolutionnaire, c'est pas Guardiola, mais c'est quelqu'un qui va se mettre là aussi au service du talent des joueurs, parce que faut pas déconner, l'Espagne a gagné parce qu'elle a de fabuleux joueurs qui ont été très bien formés. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va adapter les joueurs à son système, mais plutôt adapter son système à la qualité des joueurs qu'il aura sous la main.
Voilà, donc pour la parenthèse espagnole, on repart en France. On a évoqué donc la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales. On a parlé de la chance. Et puis on va peut-être aussi parler d'un joueur qui a disputé la finale de la Ligue des Champions avec l'Atlético, qui a été descendu après la première sortie face à la Roumanie, qui était même remplaçant au coup d'envoi du deuxième match. Mais là, c'est le meilleur buteur de cet Euro. Antoine Griezmann, Fred, vous le voyez chaque week-end, parfois même trois fois par week-end quand il y a des matchs dimanche, mercredi, dimanche. Donc c'est un joueur qui confirme ce qu'il a étalé depuis le début de la saison finalement.
Mais ce n'est pas une surprise ni pour moi ni pour Hervé, puisque je me souviens très bien des tweets qu'avait fait Hervé Penaud, mon maître, à penser sur Griezmann quand il avait été mis sur le banc. Mais quand on a un joueur de talent comme Griezmann, il peut être mauvais pendant 89 minutes et puis vous marquez un but de folie à la 90e. Vous savez, il suffit de regarder les matchs, sauf que beaucoup de gens ne regardent pas les matchs. Et c'est ça le problème, notamment les matchs espagnols, puisqu'on est quand même en France abreuvé de foot anglais et qu'on ne regarde pas assez la Liga. Quand vous avez un...
L'Angleterre, Fred, Simeone, l'Angleterre a perdu face à l'Islande en huitième de finale.
Oui, ils sont drôles. D'ailleurs, j'ai adoré la une du Daily Mail.
C'est
aujourd'hui.
Trop drôle.
en 5, équipe qui a battu l'Angleterre 2. Au moins, il leur reste l'autodérision aux Anglais, les pauvres.
Il y a aussi, il y a aussi un autre titre, même Giroud a marqué contre l'Islande.
C'est moche, mais c'est drôle. Et donc, on a Griezmann. Et Simeone racontait une fois en conférence de presse, il me dit, mais Griezmann, même quand il est mauvais, je le laisse jusqu'au bout, parce que je sais qu'à un moment, avec le talent qu'il a, il est capable de changer le destin d'un match. Voilà, on n'a quand même pas tant de grands joueurs que ça en France pour s'être permis de l'avoir mis sur le banc. Et ceux qui, ça c'est des réflexions à deux balles de journalistes qui n'ont pas d'infos. Vous savez, quand ceux qui ont dit en France que ouais, on a bien fait mettre Griezmann, ça l'a réveillé, etc. Mais non, c'est pas ça. Griezmann ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne à la confiance. Simplement, Griezmann, quand il fait son premier match contre la Roumanie, c'est 15 jours après avoir joué une finale de Ligue des Champions avec prolongation et tir au but. Et que Griezmann était fatigué. Et puis, il était encore sous le coup de la déception. Voilà. Donc, je passe la balle à Hervé, mais il sera totalement d'accord avec moi. Il suffit simplement de regarder la qualité du but qu'il a marqué pour se dire qu'on a un joueur exceptionnel et qu'avec un type comme ça, on peut aller très loin dans cet Euro.
Et même son premier match, je regrette, mais tout le monde était en dessous. Et il aurait fallu faire payer à Griezmann le fait de ne pas justement avoir été bon lors de ce match d'ouverture. Mais rappelons-nous quand même que Griezmann s'est procuré deux occasions, a frappé le poteau sur la tête, et après il y a eu une reprise qui a été enlevée par un défenseur roumain, quasiment alors que la trajectoire, sa balle allait dans le but. Non, Griezmann, à un moment, il y a des joueurs qu'on ne sort pas, ça fait partie de leur ADN, ils ont besoin d'être sur le terrain parce qu'à un moment ils vont faire la différence. On ne se pose pas la question au Portugal de savoir si on sort Ronaldo ou pas. Et pourtant, il ne fait pas un grand euro, mais un jour, il a délivré, c'était en huitième de finale. Et voilà, et puis c'est tout. De toute façon, la question ne se pose pas. Je pense que Deschamps a longtemps tâtonné, mais c'est ce qui est intéressant, et c'est finalement ce qui aujourd'hui, ce matin, me fait assez plaisir dans cette équipe de France, c'est que toutes les certitudes, la manière de travailler de Deschamps, tout ce qu'on sait de lui et de cette équipe de France, a un peu volé en éclats. Et on se retrouve avec une équipe de France qui est assez séduisante, marrante, parce que il y a, je dis pas un foutoir, mais il y a eu tellement de changements, tellement de choses inattendues et imprévisibles, que finalement ça rend l'équipe sympathique. Et comme c'est une équipe qui est très portée vers l'offensive, eh ben on a envie de se prendre de passion pour cette équipe de France et Deschamps à casser un peu la glace, briser la glace d'une certaine manière, en n'étant pas le Deschamps souverain dans ses choix, toujours pertinent dans ses décisions. Là, il a souvent réagi plus qu'agi. Maintenant, il est temps d'aujourd'hui de prendre les choses en main et de prendre ses responsabilités. Et puis, une nouvelle fois, vous retrouvez, comme je le disais tout à l'heure, avec une équipe d'Allemagne qui est très largement diminuée. Je parlais hier soir avec Slaven Bilic, l'entraîneur de West Ham, et qui m'a dit que pour lui, l'absence de Gomez, ça va être énorme dans ce match-là. Et c'est pour ça qu'il voit les Français gagner. Parce qu'il dit le point faible défensif des Français, c'est surtout les coups de pied arrêtés. Le jeu aérien en général,
les touches.
Pas simplement sur les coups de pied arrêtés, touches, même sur les deuxièmes ballons, même sur les ballons dans le jeu, c'est le domaine aérien. Et Gomez est le plus fort en Allemagne sur le domaine aérien. Donc à partir du moment où vous ne l'avez pas, et ben les Allemands vont être obligés, même si Müller peut jouer dans l'axe et n'est pas un mauvais joueur de tête, mais enfin c'est pas le Müller qu'on a connu une certaine époque, mais vous êtes obligés de faire le jeu de passe allemand classique, c'est-à-dire tourner un peu à l'espagnol. Il va vous manquer la pointe qui était Mario Gomez.
Comme on voit d'ailleurs.
Si tu me permets, simplement, parce qu'il y a un débat tactique sans jouer les Del Bosque à deux balles. Griezmann impose, de par son jeu, quelque chose qui va bien à la France et qui est bon face aux adversaires. C'est le jeu à une touche du balle, le jeu en première intention.
Non,
c'est-à-dire que. Quand on voit Pogba, moi j'ai beaucoup de mal avec Pogba parce que Pogba il veut trop, il en rajoute des tonnes. Alors que vous voyez Griezmann, il provoque sans cesse le 1-2 et on l'a vu encore hier soir. Et moi qui ne suis pas au départ un fan de Giroud, je dis bravo Giroud d'avoir eu l'intelligence de comprendre le jeu de Griezmann et de savoir s'appuyer sur Griezmann ou de permettre à Griezmann de s'habiller sur lui-même. Et je pense que ça profite à tout le monde. Il y a eu 2-3 moments, j'ai eu l'impression qu'on a vu un jeu à l'espagnol. Hein, pendant quelques minutes, quoi, tu vois, mais ça, moi, ça me fait plaisir de voir que cette équipe de France est capable, techniquement, de faire ce football-là.
Julie ?
Moi, je suis d'accord avec les garçons. Il me reste cependant des grosses zones de doute. Hervé disait tout à l'heure, on a beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de mal globalement sur tout le couloir de Patrice Evra.
C'est vrai que c'est pas évident. Et puis il faut quand même rappeler que l'adversaire était quand même pas non plus un cador du football européen.
Exact.
Parce qu'une fois que vous avez réussi l'exploit contre l'Angleterre, Bah, et après, à un moment, ils sont effrités aussi. Hein. Mentalement, ça, c'était pas la même équipe qu'on a connue, même s'ils ont fait une deuxième mi-temps intéressante, puisqu'ils ont mis ils ont gagné, remporté cette deuxième mi-temps. Mais en fait, tout était plié au bout de 45 minutes. Donc, oui, effectivement, c'est assez particulier cette équipe de France, parce qu'on a des points forts offensifs et on sent que défensivement, et notamment ce côté gauche, eh ben, on est en difficulté. Evra est le Evra qu'on connaît depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude sur lui. Umtiti s'en est plutôt bien sorti, j'ai trouvé, et face à personne, c'est vrai, mais face à quand même un jeu de duel aérien. Alors c'est vrai qu'il n'est pas complètement là sur le premier but des Islandais, mais enfin bon, pour une première, ça pouvait être pire. Là, il y a quand même une interrogation, est-ce que Rami va revenir ou est-ce qu'il va faire confiance à Umtiti? Donc on voit bien que défensivement, on ne sait pas vraiment où on en va, où on va. Alors, est-ce que les Allemands vont être capables de profiter de ça, de ces errements-là? Ça va être la vraie interrogation de ce match-là. Parce que moi, j'ai toujours pensé, Julie, ce que tu disais sur le massacre allemand des Français en demi-finale. Et ben aujourd'hui, je le vois un peu moins. À partir du moment où il n'y a pas Hummels, il n'y a pas Khedira, il n'y a pas Gomez,
mais oui, oui.
Il n'y a pas Schweinsteiger.
Mais c'est exactement le scénario, c'est le scénario, Hervé. C'est quand on ne s'y attend pas que ça arrive, l'humiliation.
C'est vrai, c'est pas faux. Mais oui. nous, on s'y attendait, ça ne va pas nous surprendre. Mais là, on a l'impression que l'équipe de France a quelque chose d'autre. Maintenant, la réalité, c'est que vous allez affronter l'équipe d'Allemagne qui a certaines certitudes. Mais j'ai été surpris aussi que l'équipe d'Allemagne, par exemple, j'étais au match, joue à 3 derrière. Je me suis dit, pourquoi pas jouer avec le système classique. Il pouvait jouer aussi à 4, l'eau. Et là, je le vois plus jouer à 4, à moins qu'ils se disent, puisqu'il y a deux attaquants côté français, on va rester à 3. Mais ça m'étonnerait. Puisque Hummel, c'est pas là, il peut mettre Oedes dans l'axe et puis revenir à 4 derrière. Mais ça va être un match tactiquement intéressant à suivre.
On verra cela tout à l'heure avec David Lortolari, parce que la presse allemande a été très critique vis-à-vis de Löw, puisque avec 3 défenseurs, c'est l'Allemagne qui s'est adaptée à l'Italie, alors que normalement, quand on est une équipe forte, on impose sa loi, sa force, etc. On aura l'occasion de revenir sur cette rencontre Allemagne, vue d'Allemagne, bien sûr, Allemagne-France, ça sera jeudi. Et juste une parenthèse, on reviendra tout à l'heure dans un instant avec Fred aussi sur le match Portugal-Pays de Galles quand même, parce que c'est intéressant. En plus, il y a 2 joueurs du Real, 2 champions d'Europe qui vont s'affronter. Il y a même le Ballon d'Or peut-être qui est en jeu. Et on ne sait jamais si le Pays de Galles remporte l'Euro avec la Ligue des Champions. Gareth Bale, avec les 3 mois qu'il a réussi.
Quelle est l'obligation d'avoir remporté je veux dire, à partir du moment où tu fais un bon Euro, tu peux y prétendre de toute façon.
Mais il y a ça, il y a l'Euro, mais il y a surtout la Ligue des Champions.
Bah oui, les 2 joueurs ont remporté la Ligue des Champions.
Donc on verra peut-être. Bon, on ne sait pas, on est à peine.
Il y a quand même peut-être plus de crédit pour Gareth Bale que pour Cristiano Ronaldo sur ce coup-là.
Sait-on jamais, puisque c'est toujours. Enfin, le Pays de Galles, c'est quand même la bonne surprise avec l'Islande de cet Euro. Tout à l'heure, Fred parlait de on ne peut pas sortir, ou Hervé aussi, faire sortir des joueurs comme Griezmann ou Ronaldo. Si, on peut les faire sortir lorsqu'on a gagné un match, lorsque c'est acquis à 2 minutes pour avoir une ovation. Mais même Ronaldo et Messi ne veulent pas sortir quand il reste 2-3 minutes. Par contre, hier, on a vu un geste de Didier Deschamps qui a aligné, qui a fait entrer Mangala. Et ça, c'est une bonne chose pour le joueur. Mentalement, moralement, c'est très difficile, Hervé, pour ce joueur.
Bon, de toute façon, Mangala a compris qu'il ne servait à rien. Il était là.
Voilà, c'est pour ça. Mais je trouve que c'est pire, moi.
Bah oui, il faut être sérieux.
Je trouve que c'est pire.
Et on l'a fait jouer pourquoi?
Moi, je pense pour que les Français voient à quoi ils ressemblent, parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs. Et quand t'as les Panini, les gamins, tu sais pas trop, tu peux confondre.
Et puis quand ils ont vu Stéphane Mbia rentrer, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait Stéphane Mbia? Je croyais qu'il était parti en Chine.
Sur son CV,
comme 2 gouttes d'eau.
Sur son CV, si jamais la France remporte l'Euro, il aura disputé quelques minutes. Donc c'est déjà pas mal.
Oui, mais Mangala est rentré pour faire doublure. C'est la doublure de la doublure, c'est-à-dire que c'est l'homme qui dit ah machin va avoir un carton jaune. Ah tiens Mangala, t'es super bon, on va sur le terrain. Alors il allait sur le terrain, on lui a dit. Il a compté, il a dit oh, effectivement on est bien 11, je suis le 11e. Je rigole, mais c'est un type très sympa.
Ah mais il a l'air.
C'est pas un mauvais joueur, attention. Mais là il
c'est
a
un
il
bon
manque
non
de
plus.
Confiance. C'est pas voilà, on va dire c'est un moyen. Oh, disons que je pense pas que Guardiola le conserve. Voilà. Bon, en tout cas, s'il le conserve, il regardera les autres jouer.
Oui, c'est vrai. Mais en plus, il n'y a pas que lui. Il y a pas mal de joueurs qui vont quitter Manchester.
Mais je voudrais quand même.
Oui, Hervé.
Je voudrais quand même signaler la performance d'Olivier Giroud. Parce qu'Olivier Giroud, vous vous rendez compte, c'est celui qui prend la tête de cette équipe de France, la pointe de l'équipe de France, alors qu'il y a eu toute l'histoire Benzema, que tout le monde n'arrêtait pas de dire, mais Benzema, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, il est en train de prouver qu'en équipe de France, Giroud a fait beaucoup plus que Benzema. Quel que soit son talent, qu'on peut juger inférieur, supérieur, supérieur sera difficile, mais inférieur, Et quel que soit ça, les critiques qu'il a pu subir, aujourd'hui, force est de constater que c'est quelqu'un qui s'adapte parfaitement aux joueurs avec qui il joue et qui est bon, et qui est très bon sous le maillot bleu. Il a marqué un paquet de buts, il est déclencheur de pas mal d'actions décisives, il a une puissance physique, un jeu aérien qui est très très utile, aussi bien offensivement que défensivement. Et hier, pareil, Bilic me disait, pour lui, il ne comprenait pas cette histoire de critique sur Giroud. Il me dit, c'est marrant, même en Angleterre, même les fans d'Arsenal, il y en a qui l'adorent, d'autres qui le détestent, alors que pour moi, c'est un top player. Pour puissance physique, il y a peu d'équivalent. Il est capable de la tête de marquer des buts. Il sent bien le but. Il est puissant. Il va vite. Il a un super pied gauche. Il me dit, je vois pas tellement ce qu'on peut lui reprocher. Mais c'est un débat qui existe aussi bien chez les journalistes que chez les fans d'Arsenal. Et là, aujourd'hui, il a répondu présent. Ça, c'est un fait. Parce que je sais ce qui va se passer. C'est que s'il marque pas de but contre l'Allemagne, on va dire, ah bah, si Benzema a joué contre l'Allemagne aussi en Coupe du Monde. Et il a pas marqué de but. Donc, c'est un moment. Voilà. Pour moi, son crédit, il a obtenu grâce à ses performances sur le terrain.
On aura l'occasion de parler de ce match Allemagne-France jeudi dans l'émission Média Foot. Mais mercredi, il y a une première demi-finale et ça sera Pays de Galles-Portugal avec des Madrilènes qui vont s'affronter. Fred, comment vous voyez ce match?
Ben, on est très fiers du côté du Real. D'ailleurs, le site internet du club dit très fier qu'il y a 4 madridistes en demi-finale de l'Euro, puisqu'il y a Pepe, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos et Gareth Bale en demi-finale. Et puis, il est clair qu'on a face à face Gareth Bale qui est, je l'insiste, le meilleur joueur du Real cette saison, et Cristiano Ronaldo qui est la star de cette équipe. Donc c'est un duel dans le match dans le match, comme on dit habituellement, qui est passionnant. Je suis d'accord avec Julie que le Ballon d'Or est peut-être en jeu. Bale a été meilleur, a été plus décisif que Ronaldo cette saison, et je pense que ce match il peut faire pencher un petit peu la balance, parce que Ronaldo n'est pas dans une forme magnifique, mais on connaît le talent, même sur un pied, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et en face, on a un Gareth Bale qui est dans une forme physique hallucinante. Sans vouloir révéler de secret, j'ai parlé hier soir avec quelqu'un du staff technique du Real Madrid, qui n'était pas du tout étonné du fait qu'il y ait autant de madridistes qui arrivent à ce niveau-là de la compétition, puisque au mois de janvier-février, le Real a fait 6 semaines de travail intensif physique. Il y a une sorte de mini pré-saison au niveau physique et qui porte ses fruits en cette fin de saison, même si des joueurs ont tous plus de 60 matchs à leur actif. Je crois que 65 pour Cristiano ou 66, enfin, c'est du délire. Voilà, ça va être très intéressant ce duel. Et je peux vous raconter une petite anecdote. On m'a raconté que Bale et Cristiano n'ont jamais eu de problème, mais ils n'étaient pas très proches, mais qu'une vraie complicité est née lors du dernier mois de compétition, c'est-à-dire à partir de fin avril, début mai. Cristiano Ronaldo a commencé à avoir beaucoup de respect pour Bale, puisqu'il a bien vu que lui-même était blessé, que Benzema était blessé. Quand ses deux membres de la BBC n'étaient pas là, ben Bale a fait le boulot. Bale a assumé ses responsabilités. Et le regard de Cristiano, me dit-on, depuis le centre d'entraînement du Real, a un peu changé sur Bale. C'est respect, toi t'es un bon, tu fais partie des grands. Et on me racontait notamment des séances de tirs de coup franc en fin d'entraînement entre Cristiano et Bale, avec beaucoup de complicité entre les deux hommes. Donc ça va être très intéressant de les voir ce mercredi soir.
Un match à suivre donc. Hervé, cette équipe du Pays de Galles, capable de déjouer, surtout que le Portugal a aussi été très critiqué, incapable de gagner un match en 90 minutes.
Bah, c'est quand même un drôle d'euro, hein, quand on y pense. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui est bonne, ou très peu. Ils sont surtout effondrés à un moment ou à un autre. On pense à la Croatie aussi. En plus, ils ont reposé des gars sur le troisième match de poule. Ils vont être en pleine forme à la trappe contre des Portugais qui n'ont pas été bons, mais qui ont gagné. Alors après, est-ce qu'il n'y a que la victoire qui est belle? Au final, oui. Parce que, évidemment, que sur un palmarès, on se souvient plus s'il y avait des remplaçants, des blessés, des suspendus. Mais il n'empêche que pour l'instant, il n'y a pas d'équipe qui se dégage, sauf l'Allemagne et l'Italie. J'avais cru un moment à l'Espagne, mais bon, ça a été un feu de paille. Mais aujourd'hui, l'Allemagne semble l'équipe qui a le plus de certitude. Et la France la déboule comme le nouveau favori, j'allais dire, entre guillemets, car jouant à domicile et puis ayant fait une démonstration hier. Mais ça reste une démonstration contre une équipe quand même de très faible niveau. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire les exploits qu'elle a pu faire avant. Et c'est vrai que ils ont fait un super match, les Français, parce qu'il fallait le prendre par le bon bout. Ce n'était pas évident. La preuve, les autres équipes se cassent les dents dessus. Les Pays-Bas ont été éliminés en poule. Donc ce n'est pas simple. C'était pas simple de prendre cette équipe de l'Islande. Mais il n'empêche que il y a quand même l'interrogation. C'est un match de coupe, c'était un match de coupe, mais quand vous prenez très très bien un match de coupe avec le mental, la rigueur tactique nécessaire, bah vous devez à un moment, quand vous avez des joueurs comme Griezmann, Giroud, Payet, Pogba, Matuidi, etc., etc., vous devez être capable de gagner Kranjunston, Münchenson et Münchenson. je ne veux pas être irrévérencieux, mais la logique veut quand même qu'à un moment, votre niveau technique fasse la différence.
Surtout moi, en plus de ça, j'ai eu l'impression que cette équipe d'Islande, elle était arrivée hier un peu plus à bout que les précédents matchs, en fait. Je trouvais qu'elle n'était même pas dans la même forme. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de France a bien gagné, mais qu'en plus, elle a bien gagné face à une équipe d'Islande diminuée.
Et peut-être la France a fait mieux que les autres matchs, a bien entamé ses rencontres, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, peut-être aussi. Donc, on va ouvrir une parenthèse parce que j'ai l'impression que Julie se réveille tout doucement.
Oui,
une question qui l'intéresse, parce que Hervé, cette semaine,
Parce que tu vois, je ne suis pas sûre que l'équipe de France ait si bien débuté que ça. C'est-à-dire qu'elle met un but.
Oui,
mais en fait, elle n'est pas, les 15 premières minutes, je ne me dis pas, oulala, ils entament bien ce match, dis donc.
Après 20 minutes, 2-0, c'est l'idéal. C'est l'idéal après 20 minutes.
Hervé est en train de dire qu'il est tout à fait d'accord avec moi.
Bien sûr qu'il est d'accord, je suis d'accord. Mais bon, à l'arrivée au Marquois.
Les 15 premières minutes.
Elles sont pas terribles.
On a vu une équipe de France un peu en difficulté. Ouais. C'est qu'après, effectivement, quand vous rencontrez une équipe qui est pas trop dans le coup défensivement,
qui n'est pas venue,
c'est le cas. Alors attends, l'appel de Bay de Giroud est très bon. L'appel de Giroud est très très bon. Il n'y a absolument rien à dire.
C'est le marquage qui laisse à désirer, magnifique. Parce que quand même dans la couverture.
On va dire ça comme ça.
Bref.
Mais bon. Le jeu nécessite des fautes aussi. Hein.
J'allais ouvrir une parenthèse et ça intéresse Julie parce que cette semaine, le Paris Saint-Germain a engagé 3 joueurs d'affilée.
Ah oui, tout à fait.
Hervé, le Paris Saint-Germain.
On parle en même temps que la conférence de presse du nouveau coach d'ailleurs. C'est en ce moment.
Mais c'est beaucoup plus intéressant ce qu'on dit.
Oui, mais écoutez-nous plutôt. Hein. Franchement, c'est plus intéressant avec nous. Hein.
Justement, c'est pour ça que j'ai essayé de réveiller Julie. Mais bon, elle est apparemment dans la deuxième partie, ça sera encore mieux que.
Non. Oui. Donc, tu veux savoir ce que Hervé en pense des 3 recrues ?
Non, par exemple, mais je veux aussi savoir ce que pense Fred à propos de l'équipe de France. Est-ce qu'elle a mieux entamé le match que les autres
Alors, mais qu'est-ce que tu veux choisir d'abord, Paris Saint-Germain ou la France ? Mais décide-toi,
Fred. Les deux, mon capitaine.
Fred, les deux à la fois.
Et je vais faire les deux. Non, mais c'est ça, tu as tout à fait raison, Rakim, parce que les Islandais. On vu que l'équipe de France était dans un autre esprit et que là il y a eu un pressing très rapide des Français, il y a eu une possession de balle énorme rapidement, c'est-à-dire que les Français ont eu l'intelligence de ne pas laisser croire aux rêves aux Islandais, et ça a quand même beaucoup changé cette rencontre. Ensuite, les recrues du PSG, vous connaissez tout le respect et l'admiration que j'ai pour Unai Emery, donc c'est un très bon coach pour le Paris Saint-Germain. Il faudra simplement que le PSG fasse une recrue, la recrue la plus importante, je pense, qui s'appelle Patience. Si les dirigeants du PSG faisaient confiance pendant une belle durée à un coach et le laissaient travailler sans lui mettre de la pression dès qu'il y aura un match nul chez un avant-dernier de championnat, oui, ça peut arriver des fois. Laisser travailler, laisser le projet se mettre en place. Et puis je voudrais tirer un coup de chapeau aux agents de Ben Arfa, parce qu'ils sont très forts. Ils ont réussi à nous faire croire que Ben Arfa allait signer au Real, ils ont réussi à nous faire croire qu'il allait signer au Barça, ils ont réussi à nous faire croire qu'ils allaient signer à Séville. Les 3 trucs n'étaient pas vrais. Et puis comme ça, ils signent au PSG avec un très bon salaire. Donc bravo aux agents de Ben Arfa.
Voilà donc pour Ben Arfa qui va retrouver l'entraîneur du FC Séville avec un milieu de terrain.
Je pense pas que ce soit le bon choix d'ailleurs pour Atem Ben Arfa. Je suis contente de le voir évoluer encore en France la saison prochaine. D'ailleurs que ce soit à Paris ou non, ça m'est égal, mais je suis pas sûre qu'il ait fait le bon choix d'équipe. J'aimerais savoir ce qu'Hervé en pense. Ah bon. On l'a perdu, Hervé.
Hervé est parti. Il est parti. Il a signé au Paris Saint-Germain.
Sur Krychowiak, c'est une super recrue.
Ouais.
Là, c'est du. Mais là, c'est le génie. Le génie du.
Il a déjà joué en France. Il a déjà.
Il est à Reims. Il a coûté 4 millions d'euros. Il le rachète 30 millions. Mais moi, j'adore. Mais ça, c'est bravo recruteur français, franchement. Je veux dire. Alors après.
C'est Griezmann.
C'est très bon, mais. Mais après 2 ans. Après, bon, j'insiste un peu, mais. Je vais simplement vous dire que Krychowiak a aussi évolué après 2 ans en Liga. C'est-à-dire que le stage de Liga, il a, c'est un meilleur joueur qu'il y a deux ans. De là à ce qu'il ait pris 26 millions d'augmentation dans sa valeur, c'est un petit peu exagéré. Mais ça, on sait très bien. C'est Monchi, le directeur sportif de Séville, qui arrive, qui achète des joueurs pas chers que les autres ne voient pas. Il les amène à Séville. Ils grandissent au sein d'un bon club. Ils grandissent au sein de la meilleure Liga du monde. Et ensuite, ben, ils prennent une valeur extraordinaire. Donc, bravo, bravo PSG. Ça reste quand même ça reste avant tout, malgré le prix très élevé, une excellente recrue qui va apporter beaucoup d'équilibre au milieu de terrain de cette équipe du PSG.
Et est-ce qu'il y a des informations sur James Rodriguez?
Les informations que j'ai du côté du Real Madrid sont qu'on va essayer de récupérer James Rodriguez. C'est-à-dire que de le récupérer pour le foot, c'est-à-dire qu'il a quand même coûté 85 millions d'euros et que, a priori, comme il n'y a pas de star dans cet euro, enfin plutôt les deux stars, Cristiano, Bale, Kroos, les meilleurs joueurs là pour l'instant, sont au Real. Griezmann, bon, avec le pacte d'anti-agression qu'il y a entre le président du Real et le président de l'Atlético, le Real ne va pas le recruter. Donc voilà, le Real va peut-être faire finalement très très peu de recrues. Et donc James Rodriguez devrait rester au Real Madrid. Donc comme le Real n'a pas besoin d'argent pour acheter un grand joueur, bon, on va garder James Rodriguez en espérant qu'il puisse être... de nouveau concentré sur son métier de footballeur et montrer le niveau qu'il avait lors de ses premiers mois il y a deux ans au Real.
Dernière question, on a été coupé tout à l'heure à Hervé et de retour, on parlait du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne affaire ou c'était quoi la question de Ben Arfa, Julie? Est-ce qu'il a bien fait de...
Hervé, il est revenu?
Oui, Hervé est revenu.
Je suis là, ça y est, je suis revenu. Oh oui, j'ai été coupé, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est dingue ça.
C'était un énorme sabotage, je sais très bien qui se trouve
derrière. Je disais
que moi je pense que Hatem Ben Arfa, il fait pas forcément, moi j'en sais rien, je suis un peu Madame Soleil, mais qui fait pas forcément le bon choix, que je suis contente de le voir évoluer encore en Ligue 1 la saison prochaine, mais que je suis pas sûre que dans son cas très précis, ce soit le bon choix d'avoir choisi le Paris Saint-Germain.
Alors oui, ça c'est intéressant, effectivement, comme analyse. Est-ce que pour lui, il n'aurait pas été mieux d'être à Séville, dans le championnat espagnol, où il aurait pu se révéler, et puis on l'aurait peut-être demandé des choses un petit peu différentes. En France, il y a une pression particulière. C'est le gars de Paris qui a toujours rêvé de réussir au Paris Saint-Germain. Et donc, effectivement, il y a cette interrogation sur est-ce que ça va pas être trop grand, d'autant plus qu'il n'a fait qu'une saison de toute sa carrière, quasiment. Hein. Je veux dire, une saison régulière, où il a été titulaire indiscutable à Nice. Et à Nice, vous n'aviez pas la même pression qu'au Paris Saint-Germain. Il pouvait se permettre de s'endormir parfois pendant les matchs et on ne regardait que ce qu'il faisait de bien. Aujourd'hui, on va le juger sur ce qu'il fait le moins bien. C'est ça la grande différence. Et puis, il y a quand même une grosse concurrence. Alors pour lui, effectivement, en Espagne, s'il avait explosé en Espagne, ça aurait été énorme. Mais comme c'est quelqu'un d'ambitieux, et je le comprends, et que nous, on a encore envie de le voir dans le championnat de France, venir ici, et s'il fait une saison monstrueuse à son âge à Paris, alors là, ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme pour lui, et il y aurait une explosion totale dans sa carrière, et je pense qu'on pourrait aussi le revoir en équipe de France.
Voilà, c'est le mot de la fin. C'est fini pour cette première partie. Hervé Penaud et Frédéric Kermel.
J'étais mieux sur la fin que sur le début. Donc, je préfère faire mon autocritique moi-même.
Jeudi, tu seras encore en forme, mieux que les autres. Ouais. Merci Hervé, adios. Merci Fred.
Ciao, jeudi. Ciao,
bonne journée à tous. Dans un instant, David Lortolari et Aurélien de Vernois. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away. Hold on.
qui est en train de se faire. On est revenu.
La deuxième partie, on est revenu. C'est Julie Rosselin, vous le savez, qui suit.
Qui était en train de parler de prêt, mercato de NBA.
NBA, le basket, vous le savez, Julie est déçue par ce qui s'est passé lors de la finale et la défaite. On ne va pas revenir, remuer le. On a entrevu la victoire 3-1 et après ce retournement.
Ouais, mais c'est un beau retournement. C'était
Golden
bien fait.
State,
c'était.
Bref, donc,
c'était
les canon. Warriors. Bref, on parle de l'Euro 2016 dans cette émission. Vous le savez, l'Euro touche à sa fin. Les demi-finales mercredi. Jeudi. Dimanche, la finale. On rappelle les affiches France-Allemagne et Pays de Galles-Portugal. Avec nous, Aurélien Devernois et David Lortalari. Bonjour Aurélien.
Bonjour Hakim, bonjour Julie, bonjour à tous.
Ils Salut. Sont contents les Anglais sortis par l'Islande qui a pris 5-2 hier face à la France?
Ah, ils sont ravis. Je pense qu'ils ont passé une des meilleures soirées de leur vie hier soir. Ils étaient tous devant leur écran en se disant mais ah là là, mais qu'est-ce qu'on aurait pris face à la France? On en aurait pris 10, hein.
Non, mais c'est quoi, sérieusement, les réactions de la presse ce matin? Qu'est-ce que...
Alors, y a notamment le titre d'un journal, je crois que c'est le Daily Mail, qui dit France 5, le pays qui nous a battu 2.
On en a parlé tout à l'heure.
Ils n'ont
même
pas mis le nom de l'Islande. C'est pour vous dire s'ils sont mauvais joueurs sur cette compétition.
On a même écrit, même Giroud a marqué 2 buts hier. Donc, c'est dire la déception des...
Oui, non, mais c'est pas les Anglais qui ont écrit ça. Les Anglais aiment bien Olivier Giroud, c'est quand même un attaquant estimé du côté de l'Angleterre.
Mais Marseille,
ils ont été beaucoup plus étonnés. Non, mais ils sont beaucoup plus étonnés par le parcours d'Aaron Ramsey, qui est en revanche qui a été très décevant la saison dernière avec Arsenal, souvent blessé. Et là, ils sont très très étonnés par les performances qu'il a fait match après match au cours de cet Euro. Malheureusement,
mais il ne sera pas.
Mais ça risque d'être quand même une absence particulièrement gênante pour le Pays de Galles, non?
C'est leur deuxième meilleur joueur derrière Gareth Bale. C'est le meilleur passeur de la compétition pour l'instant avec 4 passes décisives. Et puis surtout, c'est pas le seul qui va être absent. Il y aura aussi l'autre pied de la défense avec le capitaine Ashley Williams. C'est Ben Davies qui est lui aussi suspendu. Donc ça fait 2 absences particulièrement préjudiciables pour les Gallois. Il va falloir qu'ils fassent montre de beaucoup de solidarité face aux Portugais pour s'en sortir probablement.
On va quand même, Julie, accueillir David parce qu'il est avec nous. Bonjour David.
Bonjour à tous.
Salut David.
David, Allemagne-France, ça sera jeudi. Rapidement, parce qu'on doit libérer d'abord Aurélien. Aurélien, ce match Pays de Galles-Portugal, c'est ouvert, bien entendu. Et on a l'impression que toute la pression est sur les Portugais. Les Gallois, eux, ont déjà réussi leur tournoi. Ça peut aider, ça peut jouer.
Alors oui, les Gallois n'ont rien à perdre, ça c'est évident, et c'est sûr que le stress sera plutôt du côté des Portugais. Après, vu la compétition qu'ont fait les Portugais depuis le début, ils peuvent s'estimer déjà extrêmement heureux d'être en demi-finale. Oui. C'est quand même presque miraculeux pour eux, et donc quelque part, cette pression-là, ils sont en demi-finale en faisant une compétition très décevante. Il n'y a pas de raison qu'ils aient finalement tant de stress que ça. Ils ont eux aussi déjà réussi leur Euro. Donc finalement, je pense que le paradoxe, c'est qu'on risque d'avoir 2 équipes relativement libérées pour jouer cette demi-finale. Ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de buts, hein. Je m'engage pas trop là-dessus. Mais les 2 équipes n'ont pas grand-chose à perdre. Après, on a d'un côté le Pays de Galles qui est la deuxième meilleure attaque de l'Euro derrière la France. Et de l'autre, les Portugais qui sont la plus mauvaise défense de ces demi-finales. Donc peut-être qu'il va y avoir encore une grosse surprise.
Une autre question qui n'a rien à voir avec l'Euro. J'allais poser une question sur l'Euro, j'ai oublié, à propos de l'Angleterre et Aurélien. Mais d'abord, puisque ça me vient, Manchester United, le marché de Manchester United, de Mourinho, parce que tout à l'heure on a parlé du Paris Saint-Germain, eh bien il y a du bon monde qui arrive à United, Aurélien.
Oui, tout à fait. Il y a donc Zlatan, hein, ça on le savait. Puis il y a Mkhitaryan également qui a signé, le milieu offensif de Dortmund. C'est une très belle recrue, hein. On va pas se mentir. Je pense que ça risque de faire beaucoup plus la différence avec Mkhitaryan, en tout cas sur les saisons qui viennent, qu'avec Zlatan, qui à mon avis va faire peut-être une saison correcte, mais va quand même avoir du mal à suivre le rythme de la Première Ligue. Non, c'est Mourinho, c'est très bien qu'il veut recruter. Après, c'est la question qui se pose et la question que les Anglais se posent, c'est où va jouer Wayne Rooney? parce que Mkhitaryan finalement arrive quasiment à son poste puisque René joue de plus en plus bas dans l'équipe, il est plus du tout attaquant de pointe. Là, il recrute un attaquant de pointe, un milieu offensif. Où va jouer Wayne Rooney, c'est la grande question. Et là, c'est
le défenseur ivoirien de Villarreal qui est engagé depuis quelques semaines déjà. C'est un joueur qui était courtisé, on va dire, plusieurs équipes. Vous le voulez.
Voilà, c'est un joueur prometteur, on va dire. C'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui n'a pas coûté trop cher pour une fois à Manchester United, ça change un peu. Et c'est un joueur qui est là pour remonter, on va dire, une défense à United. Ça a été un des gros points faibles de United ces deux dernières saisons, voire même ces trois dernières saisons. Donc, ça fait partie du projet de Mourinho de recréer une base défensive solide du côté des Red Devils.
Ça sera la dernière question, Aurélien. Après, ça sera au revoir. Qu'est-ce que a retenu Aurélien après la prestation de l'équipe de France hier face à l'Islande?
Ben, disons que c'est difficile de se prononcer parce que quand on a 4-0 à la mi-temps, c'est après les 45 minutes qu'on suivit, ils sont pas vraiment très riches d'enseignements. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en effet, il y a une certaine fluidité qui s'est créée, qui est en train de se mettre en place entre dans le trio d'attaque, que ce soit Payet, Giroud et Griezmann. Moi, je pense que Griezmann joue à son meilleur poste en étant plutôt meneur de jeu ou attaquant reculé, plutôt que sur les ailes où il a plus de difficultés, je trouve, depuis le début de l'Euro. Après, est-ce que Didier Deschamps va garder la même formation pour jouer contre l'Allemagne? C'est, je pense, peu probable. De toute façon, il change sa composition quasiment à chaque match. Et puis surtout, l'Allemagne ayant pas mal d'absents, ça va aussi influer sur la composition de l'équipe de France. Est-ce que ça vaut pas le coup, plutôt que de jouer la sécurité avec Sissoko à droite, de mettre un joueur un peu plus véloce comme Coman pour aller provoquer la défense allemande? Et d'un autre côté, est-ce que ça vaut pas le coup à gauche d'avoir... de renforcer l'axe gauche de la défense où, à mon avis, Evra va être en grande difficulté face à Kimmich, notamment. Il y a des vraies questions qui se posent. Hein. Ça va être très intéressant de voir jeudi quelles sont les orientations qu'ont prises les deux sélectionneurs parce que y a c'est des équipes qui sont très très différentes de celles qui sont rencontrées en 2014 en quart de finale de la Coupe du Monde. Et du coup, il y a peu d'enseignements finalement à tirer de cette rencontre qui avait tourné à l'avantage des Allemands.
Eh ben voilà, justement, on va en parler à propos de cette équipe allemande. Merci Aurélien et à jeudi prochain et bonne journée David Lortolari, notre
et
monsieur.
Et autant dire que le ton n'est qualification plus du tout amical avec David maintenant. Tout a changé.
Mais si, non, mais voyons, mais si, tout à fait, tout à fait. Et puis une belle finale Pays de Galles-Allemagne, ça serait tellement mythique. Ça serait magnifique. Ça serait pour venger George Best. Enfin bon, voilà, tout est possible.
Merci Aurélie, on en parlait tout à l'heure avec Julie.
Allez, salut,
Aurélie a été enthousiaste au début, là c'est le... il a changé
elle,
de
il est
cap.
Et... Oui, voilà. En fait, c'est contre-courant quand même.
David, cette équipe allemande, on l'a vu, elle a souffert face à l'Italie avec une séance de tirs au but historique, des ratés historiques aussi, 3 sur les 5 premières tentatives, ben, c'est rare quand même pour les Allemands. Et là, eh bien, l'Allemagne
c'est pas
sera
qui en
amoindri.
Face.
Oui, mais lorsqu'on voit Pelé faire des gestes,
il est ridicule.
Zaza qui entre une seconde.
Oh là là, encore plus ridicule. Oh là là, ça m'a fait tellement rire. J'ai passé mon week-end à rire sur les vidéos de Zaza. C'était absolument génial, quoi. Toutes les reprises.
Boateng, pas mal non plus. Hein.
Oh là là, superbe. Et d'ailleurs, Griezmann hier, pardon David, hein, vraiment tu vas parler dans deux secondes. Griezmann hier, quand il fait sa glissade, en fait, il l'a mis lui-même sur Twitter. Il a pris des détournements de sa glissade où il du coup en parapente sur un toboggan etc et il l'a mis lui-même sur Twitter en demandant aux gens de faire leur propre détournement. Ça c'est rigolo.
Donc cette équipe allemande amoindrit quand même si tous les quatre ne seront pas là, ça fait quasiment 40% de l'équipe qui ne sera pas là, cette équipe allemande championne du monde pour affronter la France.
Oui, alors il y a eu vraiment deux moments très différents dans les 36 dernières heures, hein. Premièrement l'euphorie parce que c'était historique, on le sait, on le rappelle, on le répète, éliminer l'Italie en compétition officielle, ça ne s'était jamais produit, donc ça c'était vraiment, il y a eu un vent, une libération, un soulagement, une euphorie, aussi bien au sein de l'équipe, on a vu les sourires des uns et des autres, qu'au sein de la population, et derrière le choc, parce que dans la journée de dimanche, on apprend d'abord que Sami Khedira est touché aux adducteurs côté gauche, que donc il va évidemment manquer cette demi-finale, mais que peut-être son tournoi est complètement compromis aussi. On apprend derrière, peu de temps après, que le premier diagnostic musculaire sur Mario Gomez, qui était peu inquiet, finalement a été sous-estimé. Mario Gomez, c'est une déchirure à la cuisse, il est donc absent jusqu'à la fin de l'Euro. Enfin, il sera présent physiquement, mais il sera pas sur le terrain. Et puis, la troisième lame, Bastian Schweinsteiger, le capitaine, qui est touché dans un choc au genou, dont il a souffert pendant la saison, le genou qui était touché au ligament, et qui est donc très très incertain aussi pour le match. Plus la suspension de Mats Hummels, donc on est un peu redescendu sur terre, on est un peu retombé sur terre après l'euphorie de la victoire contre l'Italie, contre l'Italie, on se retrouve avec la nécessité de trouver des solutions. Mais le sélectionneur n'est pas tombé du tout dans le pessimisme ni dans le fatalisme, puisque dans la conférence qui a été donnée aujourd'hui, Joachim Löw, fidèle à lui-même, a expliqué que on allait trouver des solutions, qu'il y avait beaucoup de solutions possibles dans le groupe, ce qui est vrai. Certes, l'Allemagne sera diminuée, mais des solutions, on peut le faire ligne par ligne si vous voulez, des solutions, il en a abondamment, il va trouver un 11 de départ compétitif pour jeudi soir contre la France.
On était assez d'accord de se dire que finalement, peut-être le gros point d'inquiétude ou le gros problème, c'est peut-être plutôt Gomez.
Oui, parce que la défense, elle s'appuie sur Neuer, elle s'appuie sur Boateng qui est devenu le patron, et même si Hummels est un élément incomparable, notamment dans la relance, on peut trouver un ersatz avec Eusebio ou avec Mustavi qui avait marqué le premier but pour l'Allemagne dans cet Euro. Ça, c'est on peut trouver une solution. Milieu de terrain, pareil. En revanche, en attaque, il a commencé le tournoi avec Götze, à qui il a fait confiance, et ça n'a donné que du vent. Ça n'a donné que des semblants de pistes pour les autres qui n'ont pas été exploités. Donc ça, c'est vraiment la question principale, peut-être même la seule vraie question. Est-ce que ce point d'ancrage, cet avant-centre qu'est Mario Gomez, peut être remplacé? Si oui, comment? Est-ce que c'est Thomas Müller? Est-ce que c'est à nouveau Götze, mais qui n'est pas en confiance? Est-ce que c'est peut-être Schürrle qui pourrait être appelé pour jouer à ce poste? Ça, c'est, il est certain que le sélectionneur va faire mystère de son choix jusqu'au coup d'envoi quasiment.
En parlant de choix, on revient sur ce qui s'est passé l'autre jour face à l'Italie en huitième, en quart de finale, à savoir cette défense à trois qui a été très critiquée par pas mal de joueurs, des anciens joueurs. C'est ouais. L'Allemagne qui s'est adaptée à l'Italie, alors que normalement l'Allemagne, en tant que championne du monde, nation de football, une force, bien entendu, un favori. Ce choix n'a pas été apprécié en Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Oui, il y a effectivement eu un vent de critique de la part notamment de Mehmet Scholl, l'ancien meneur de jeu du Bayern, très influent et une vedette de la télévision désormais, télévision publique. Et dans la foulée, il y a eu une contre-attaque assez nette aussi du staff de l'équipe d'Allemagne, avec notamment le directeur sportif Birov qui a bien laissé entendre, et le sélectionneur lui aussi, qui ont bien laissé entendre que Scholl n'était pas à l'intérieur du groupe, qu'il ne savait pas ce qui s'y passait, qu'il ne connaissait pas le contexte, qu'il y avait un staff très étoffé qui faisait des choix très stratégiques, des choix chirurgicaux, et que si ce choix avait été fait, c'était parce que il y avait des vraies bonnes raisons tactiques, techniques, d'adaptation à l'adversaire. Alors ça, après, c'est un vieux débat philosophique. N'empêche que l'Italie, eh bien, n'a pratiquement eu à se procurer que pratiquement aucune occasion pendant le match. Et donc, on peut considérer que c'est une réussite, et c'est là-dessus que s'appuie le sélectionneur. Maintenant, est-ce que contre la France, qui se présentera peut-être là aussi avec deux attaquants, Giroud plus Griezmann, est-ce que le sélectionneur va à nouveau proposer trois défenseurs? Ça semble peu probable. Trois défenseurs centraux, je veux dire. Ça semble peu probable. Parce que pour l'instant, la communication, c'est de dire, je fais confiance aux latéraux qui ont joué jusque-là, je fais confiance à Boateng et sans doute à Ovedes, donc ça veut dire quatre défenseurs classiques, le 4-2-3-1 classique. C'est plutôt vers cela qu'on s'oriente.
On aura lors de ce match Allemagne-France des retrouvailles puisque Griezmann va retrouver Neuer. Les deux hommes se sont affrontés, vous le savez, en Ligue des Champions avec ce but marqué par Griezmann qui a permis justement, malgré la défaite, il avait permis à l'Atlético de marquer. Est-ce qu'on peut penser que l'Allemagne réservera un accueil entre guillemets, un marquage à ce joueur, parce qu'apparemment c'est l'arme fatale de l'équipe de France, c'est d'ailleurs le meilleur buteur du tournoi, David.
Je suis complètement d'accord, Hakim. S'il y a un joueur qui peut déranger la belle machine, la belle organisation, la belle préparation du côté allemand, c'est bien lui. C'est peut-être le seul d'ailleurs, parce que il est un joueur. Vous en avez parlé plus tôt dans l'émission. Hervé en parle, Aurélien en parle aussi, Fred Hermel en parle aussi. C'est un joueur qui en ce moment est en pleine confiance, en pleine réussite. Ça se voit dans tous les ballons qu'il touche. C'est lui qui peut faire basculer peut-être en faveur de l'équipe de France. Après, la façon dont les Allemands préparent les matchs au coup par coup, avec encore une fois un staff très étoffé, des gens qui analysent avec la plus grande finesse tout ce qui se passe chez l'adversaire, évidemment qu'il va lui être réservé un sort particulier. D'ailleurs, si Khedira est absent, si Schweinsteiger est absent, on pourrait bien voir le milieu de terrain robuste de Liverpool, Emre Can,
C'est quasiment fini, c'est à une minute de la fin.
Puis on avait programmé l'antenne comme ça, Emre Can, paf, tac, ça coupe, il y a des noms comme ça. Apparemment aussi Unai Emery tout à l'heure, paf, ça a coupé direct, ça va être gênant pour la saison prochaine.
Ce match Allemagne-France, ça vous fait peur, Julie ?
Extrêmement, Hakim, extrêmement. Je pense que même une Allemagne diminuée peut largement venir à bout de cette France-là.
On a récupéré David, 30 secondes David, rapidement, parce qu'il y a une petite coupure.
Oui, y a une espèce de sentiment, de vent d'euphorie, je vois en France là, avec les buts marqués, avec l'attaquant Giroud qui commence à parler de plus en plus, à prendre confiance. Je pense que, enfin, gardons les pieds sur terre, il y a encore une vraie différence collective, une vraie différence de mise au point, une vraie différence même de qualité individuelle, si vous voulez, quand on fait l'addition. Et froidement, objectivement, la France va devoir profiter du fait de jouer à domicile, parce que sinon, il y a quand même encore un vrai écart entre les deux.
Et ça sera à Marseille, et ça sera encore plus difficile à Marseille, parce que le public est très exigeant du côté du stade Vélodrome. Merci, David.
Enfin, ce ne sont pas les supporters de d'habitude du stade Vélodrome. Hein.
Oui, mais en tout cas, il y a pas mal de Marseillais. Merci, David, et à jeudi prochain.
Et fermez
bonne
cette
journée.
Porte
Merci.
Derrière vous, David, qui n'arrête pas de grincer.
Oui, je suis désolé.
Non, j'ai pas de soucis.
Merci, David. Merci, Julie. Ilham à la réalisation. Bonne journée et à jeudi prochain avec Jalal. Mais dès demain, Fouad et toute l'équipe pour une nouvelle émission de Média Foot. Bonne journée à l'écoute de la radio du Maghreb.